Vous écoutez RTL.
RTL,
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Alors, je vous ai présenté toute l'équipe d'À la bonne heure et je vais vous présenter maintenant un peu mieux notre invité. Tout à l'heure, j'ai simplement mentionné votre nom et vos titres. En ce jeudi saint, alors que les chrétiens du monde s'apprêtent à revivre la passion et la résurrection du Christ, force est de constater que jamais la religion catholique n'a autant passionné les foules, sans que l'on puisse dire si cela obéit à un renouveau de la foi, à un effet pape François, ou plutôt à la papesse des lettres Françoise. Ancienne conseillère d'État, première femme sortie major de l'ENA, elle a accompli une conversion ou reconversion réussie dans la littérature en devenant une romancière à succès dès 1981 avec L'Allée du Roi. Membre de l'Académie Goncourt, elle cultive depuis longtemps son goût pour le passé, fouillant dans les manuscrits et autres papyrus oubliés la matière première pour de grandes sagas romanesques, comme celle autour de Cléopâtre. Vous, on se souvient que vous aviez sauvé miraculeusement sa fille Sélénée du purgatoire. Au risque de faire scandale et de secouer les dogmes, elle profite de sa liberté de romancière pour développer avec fougue et talent la thèse selon laquelle Jésus aurait eu des frères. Avec le souffle d'une épopée toute biblique, elle nous entraîne dans la vie de Jude, frère de Jésus, publié chez Albin Michel. Avec nous ce matin au micro d'RTL, Françoise Chandernagor de l'Académie Goncourt.
Il vient d'augmenter ses chances pour le Goncourt ou pas, là, avec ce petit
non,
portrait?
Non, pas du tout.
C'est drôle. Mais Stéphane Bern pour son chapeau.
C'est
beau.
Non, il n'écrit pas de roman, hein, je crois.
Il n'écrit pas de roman.
Il
n'y
a que des romans au Goncourt.
Mais je suis très bien là, moi, je n'ai pas du tout envie d'aller au Goncourt. Oui, voilà. Là n'est pas la question, monsieur Dussard.
Vous êtes aujourd'hui.
Donc nous publions, parlons un peu de notre invité. Si vous l'aviez lu, évidemment, vous poseriez des questions intelligentes. Alors, Vie de Jude, frère de Jésus, chez Albin Michel, c'est un roman. Mais un roman à thèse, en quelque sorte. Parce que vous développez, vous rétablissez une vérité historique qui a été cachée depuis longtemps par l'Église. D'ailleurs, depuis très exactement l'année 370 de notre ère, Jésus a eu des frères.
Oui, pendant les trois premiers siècles de notre ère, ça n'a pas fait de problème. Mmh. Et on en trouve parfaitement la trace dans les quatre évangiles que l'Église a retenus, hein, l'évangile de Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean, qui forment l'essentiel du Nouveau Testament. Eh bien, les quatre évangélistes parlent des frères de Jésus. Mmh. Et deux d'entre eux donnent les prénoms, hein, les noms. Et donc, moi, j'ai repris le nom tel qu'il figure dans les évangiles. Évangile choisi par l'Église, canonique, comme on dit, sélectionné à la fin du deuxième siècle de notre ère. Et le plus jeune s'appelle Jude. Oui. Et je me suis dit, c'est intéressant d'avoir un petit frère, puisqu'il y avait aussi des sœurs, il y avait, d'après ce qu'on voit,
c'est
il y a au moins
nombreuse.
Cet enfant.
Oui,
c'est une famille
mais avec la même mère ou des demi-frères?
Alors, les orthodoxes penchent pour des demi-frères. Oui. Les textes disent frères. Mais en grec, puisque c'est écrit en grec, le mot frère peut aussi vouloir dire demi-frère. En général, on précise hein, dans la langue grecque, mais pas du tout cousin.
Hein cousin, ah oui. Cousin, c'est ce qu'on a.
Ça, c'est l'Église catholique, à partir du 7e siècle, où ça c'est devenu un dogme, a décidé, puisqu'il y avait la montée en puissance de la virginité perpétuelle de Marie, qui aurait été vierge même après la naissance de Jésus, et après, elle n'aurait pas jamais consommé le mariage avec Joseph. Ça, c'était pas l'idée avant le 7e siècle.
Oui.
Et donc, jusque-là, donc il y avait des frères, et quand il y a eu ce problème, l'Église catholique a dit bah finalement c'était des cousins.
C'est
mais ça c'est pas possible
c'est
parce
pas possible.
Que d'un point de vue linguistique, c'est pas du tout le même mot et on peut pas penser que des gens comme Saint Paul qui était sa langue maternelle était le grec, Luc aussi. Bon, des gens comme ça se seraient pas trompés entre deux mots très différents, Adelphos et Anepsios. Bon. Donc c'était pas
ça,
des cousins.
Ça c'est l'avantage
c'était
de parler le grec.
Voilà, oui. Voilà.
Le grec ancien.
On y reviendra
ancien.
Peut-être.
On y reviendra. Non mais voilà,
c'est
peut lire les textes originaux.
Bon, en tout cas, je ne vous dis pas que je lis tout dans le texte, mais je peux lire, je peux comprendre un certain nombre de mots. Mm-hmm. C'est parce que j'ai fait du grec au lycée. Voilà.
Mais du coup, c'est ça qui fait scandale avec...
Et alors, donc, les orthodoxes sont dit que c'était des demi-frères. Alors, ça ne colle pas non plus tellement bien, parce que si c'était des demi-frères fils de Joseph, ce qu'ils ont imaginé, et que Joseph était très vieux quand il a épousé Marie, faut imaginer des fils dont l'aîné, Jacques, a au moins, à ce moment-là, 20 ans à peu près, quand Jésus naît, 20 ou 21 25 ans quand Jésus naît. Mmh. Et à ce moment-là,
et
ça ne colle pas.
Moins, oui.
Oui, non, ça ne collerait pas s'ils étaient des aînés, donc des demi-frères du côté de Jésus, de Joseph, pardon. Parce qu'à ce moment-là, ça ferait un... On sait que Jacques est mort en 62, on le sait par un historien non chrétien, qui était un juif, qui était passé du côté des Romains. Et il a connu, c'est l'époque de sa vie, il dit que Jacques, le frère de Jésus, a été martyrisé en 62 de notre ère. Donc à ce moment-là, oui, il aurait à peu près 100 ans. Oui. Si vous ajoutez tout, la vie de Jésus, sa propre vie avant, et ça ne tient pas la route. Il était encore à la tête de l'église de Jérusalem à ce moment-là. Et on vivait rarement jusqu'à 100 ans.
Oui. Cette époque. En tout cas, c'est passionnant. Je vous invite, on va en parler, parce que c'est une thèse assez fabuleuse. Et puis vous écrivez ça
à la façon... virginité de Marie, parce que c'est ça qui est le problème.
La virginité initiale, je ne me prononce pas. Là, on voit bien qu'elle a un rapport particulier avec son fils aîné, qu'il y a...
Il y a toute une famille. Il y a toute une famille. Alors bon, on va y revenir, mais d'abord, on va jouer. On va jouer, pourquoi ? Parce que nous gagnons un séjour, encore pendant aujourd'hui et demain, un séjour à l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales. C'est un endroit absolument magique, mais... Pour ça, il faut répondre à une énigme. Il y a des mouettes, oui, c'est possible.
Ah, on peut se faire attaquer par les oiseaux.
Non, Eric, on n'est pas attaqué par les oiseaux. C'est pas Hitchcock.
Ça me fait peur, moi.
C'est pas parce que c'est pas vous qui allez y aller que vous devez dégoûter les autres. Alors, donc, les auditeurs vont pouvoir partir à l'île de Saint-Cyprien, l'île de la Lagune, dans les Pyrénées-Orientales, en répondant à une énigme. On cherche une invention. L'objet que nous cherchons est à l'origine un instrument qui fait son apparition il y a plus de 4000 ans en Asie. Aujourd'hui, il sert plus à prévenir, à appeler qu'à jouer de la musique. C'est vrai qu'il a une telle puissance qu'il a toujours servi soit à communiquer avec les hommes, soit même, dit-on, avec les dieux. Édith Piaf l'a chanté. Éric nous en fait entendre tous les jours de belles. On va beaucoup parler d'elle la semaine prochaine parce qu'elles vont revenir de Rome. Surtout si on aime les chocolats. Alors, d'ailleurs, les chocolats Montbana offrent une corbeille prestige.
Non, il en reste beaucoup.
Composée d'un assortiment de chocolats à tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne. Et j'aime autant vous dire que là, il y a une dépêche AFP qui est signée de Christian Gauvry, qui est tombée tout à l'heure, qui nous raconte l'histoire de la chocolaterie Montbana, une entreprise familiale installée à Ernée dans la Mayenne. Et c'est passionnant. Je viens de lire l'histoire.
Stéphane, on va offrir la dépêche en plus Valentin.
Exactement. C'est Monsieur Guattari, les chocolats Montbana. J'espère qu'il va venir nous les offrir lui-même. Oui. Alors, pour cela, je vous rappelle, il faut téléphoner au 3210 ou 74 900. Comment s'appellent ces choses qui vont venir de Rome lundi ? Alors, appelez tout de suite. Le mot bonheur, par SMS.
Vous écoutez RTL.
RTL.
À la bonne heure.
Stéphane Bern.
Elle avait un chant d'Ernagore de classe. Elle avait un chant d'Ernagore à blé.
C'est pas mal.
C'est joli, hein.
C'est une très jolie chanson de Guy Béard, Les Comptoirs de l'Inde. Évidemment,
ça n'existe pas.
Les Comptoirs de l'Inde.
Les Comptoirs.
Les Comptoirs, oui.
Elle avait un chant d'Ernagore, c'est une licence poétique.
Toute ta chanson est coquine, si vous l'écoutez.
Oui,
elle avait deux Yana Onron Zéphrée. Elle avait un petit Maé secret, etc. Il prend tout.
Ah, vous connaissez la chanson Barquette ?
Oh, ben je la connais, oui.
On l'a dit souvent, oui.
Tout ce qui est un peu coquin, vous connaissez.
On n'a jamais pu l'écouter en entier, elle dure 12 heures.
Nous sommes toujours avec François Chandernagor de l'Académie Goncourt pour Vie de Jude, frère de Jésus. En fait, ils étaient quatre, Jacques, José, Simon et celui dont vous faites le héros de votre livre, le petit dernier, Jude, qui a 19 ans de moins que Jésus quand il naît.
Oui, ça c'est moi qui le suppose, parce que c'est une fratrie quand même assez nombreuse, donc j'ai supposé qu'il y avait un écart d'âge important. Ouais. D'autant qu'à l'époque, quand on avait au moins sept enfants vivants à l'âge adulte, ce qui semble être le cas dans cette famille, ça veut dire qu'il y en a eu 10 ou 12. Donc ça me paraît vraisemblable.
En fait, ce qui est magnifique, c'est que vous avez d'abord cette langue que vous utilisez.
Ah, mais j'utilise j'essaie d'utiliser la langue des évangiles et de la Bible, et de l'Ancien Testament. Oui.
Ça c'est fascinant, sur le plan littéraire, c'est un exercice incroyable. Et surtout, vous nous racontez une époque. Parce qu'on peut évidemment arguer, contester le fait que vous ayez imaginé qu'il y ait une famille, que Marie n'était pas vierge puisqu'elle a eu 7 enfants.
En tout cas, qu'elle ne l'était pas après la naissance de Jésus.
Voilà. Eh bien, en même temps, ce qui est fascinant, c'est que vous nous racontez, c'est une fresque sur cette époque, sur cette période et sur ces contrées un peu
sauvages. Oui, parce que au fond, quand on lit les évangiles, ils procèdent par allusion à la situation politique ou religieuse du pays. C'est des allusions, ils n'ont pas besoin de dire plus puisque les gens auxquels ils s'adressent connaissent la situation. Oui. Mais nous ne la connaissons plus. Et il n'y a pas de description dans les évangiles, il n'y a pas d'explication dans beaucoup de cas. Alors, on comprend quand même, en lisant les évangiles, que les Romains occupent le pays. Mais on ne sait pas à quel point ça a été violent. C'était une colonisation. Bon, il y avait sans arrêt des rebelles, ce qu'on disait, bon, des indépendantistes, on dirait aujourd'hui, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque les zélotes, les dévots, parce qu'il y a eu une réaction à cette occupation.
Une réaction religieuse.
Religieuse aussi, voilà. Ils sont devenus plus intégristes, si vous voulez, les juifs de Palestine. Et en même temps, ils ont inventé le terrorisme. C'est les zélotes qui inventent le terrorisme, c'est-à-dire de tuer les collaborateurs des Romains dans les foules à coups de poignard et sans qu'on les prenne. Et après, les collaborateurs commencent à avoir un peu peur. Bon, et tout ça se superpose et c'est violent parce que deux fois de suite, les Romains détruiront Jérusalem. À un moment
donné, vous racontez ça,
Juifs de Judée, ils détruisent le temple qui était très très important dans la religion juive. Donc tout ça, on ne le sait pas. Ils prenaient des impôts énormes. Les gens étaient vraiment très pauvres en Palestine à la suite de ça. Et en même temps, la Palestine, même sous l'occupation romaine, est très divisée. Il y a la Judée, où les gens, les habitants, les Judéens, c'est-à-dire autour de Jérusalem, se considèrent comme les mieux. Du point de vue ethnique, du point de vue religieux, c'est les mieux. Ils méprisent les Galiléens, qui est le pays de Jésus, la Galilée, les montagnes, au nord, parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà un peu métissés avec des Grecs. Qui n'est pas faux. Oui. Et puis, tous ensemble, ils méprisent les Samaritains. Alors, quand on lit les évangiles, on ne sait pas pourquoi le bon Samaritain. Alors, les Samaritains, ils les méprisent parce qu'ils pensent qu'ils se sont métissés avant avec des Assyriens. Vous voyez, c'est des trucs qui remontent loin, les invasions dans la région. Et ils adorent pas Dieu à Jérusalem, les Samaritains, mais sur une montagne. Alors, ils se bouffent le nez constamment, mais ça va loin parce que les Samaritains attaquent les Galiléens qui veulent aller à Jérusalem pour faire leur Pâques et tout ça. Bon, c'était important. Il y avait des pèlerinages constamment. Et donc, ils attaquent, ils les tuent. Du coup, les Galiléens montent des expéditions punitives contre les Samaritains. Et je veux dire que si Jésus a dit, quand il dit, en tout cas dans les évangiles, qu'il peut y avoir aussi de bons Samaritains, c'est révolutionnaire pour l'époque parce que les autres, ils ne connaissent que des méchants
donc
Samaritains.
Donc, on comprend mieux, en fait, ce qui est écrit grâce à votre analyse de l'époque.
Si et puis, surtout, la situation.
Vous mettez en lumière Paul de Tarse, qui a transformé complètement l'idée qu'on se faisait...
Drôle de personnage. Drôle de personnage, un génie théologique, un génie littéraire, parce que ses lettres, ses épîtres sont rédigées dans un style parlé, il les dictait, et il y a une émotion qu'on ne voit pas dans les textes de l'époque, même dans les textes latins. Moi je suis frappée, Paul est le seul qui laisse passer l'émotion, qui dit « mais là vous me faites souffrir, mais là j'ai pleuré », etc. Des trucs comme ça qu'il dit aux gens qu'il a prêché quand il leur écrit. Mais Paul, effectivement, est ingérable pour un supérieur hiérarchique. Oui. Et donc, je montre comment Jacques, le frère de Jésus, qui a été le premier évêque de Jérusalem, et donc le responsable de la communauté, n'arrive pas du tout à se faire obéir de lui.
Vous écoutez RTL.